45 morts dimanche dans un camp de déplacés à l'ouest de Rafah, des tanks israéliens aperçus au centre-ville.
Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. 10 minutes pour tout comprendre sur un fait d'actualité. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent.
Cette semaine, le bain de sang dans un camp de déplacés palestiniens de Rafah. On avait rarement vu autant de monde dans nos rues pour défendre la cause palestinienne. Les manifestations se sont multipliées cette semaine, à Paris comme en région, pour dénoncer la mort de 49 Palestiniens à Rafah à la suite d'un bombardement israélien dimanche dernier. Trois raisons d'écouter ce podcast avec toi, Nicolas.
Alors, c'est un bombardement sur un camp de déplacés, effectivement, un camp de tentes, et c'est bien ce qui provoque l'indignation. Mais on va voir aussi que malgré les protestations, l'armée israélienne poursuit son offensive sur la ville de Rafah. On verra aussi que cette offensive est désormais condamnée par la justice internationale.
Expliquez-nous le monde.
Un podcast RMC.
Nicolas Poincaré.
Laurent Sègre.
Nicolas, Israël a donc continué toute la semaine à bombarder la ville de Rafah dans la bande de Gaza, malgré le tollé provoqué par le bombardement de dimanche dernier sur un camp de déplacés.
Oui, ces images de dimanche dernier d'un bombardement sur ce camp de tentes et les dizaines de blessés brûlés dans un gigantesque incendie ont effectivement provoqué depuis le début de la semaine une vague de protestations, tu le disais, condamnation unanime des Européens, manifestations dans toute la France par exemple. C'est un nouveau palier qui a été franchi dans la réprobation et donc dans l'isolement d'Israël sur la scène internationale. Et pourtant, ces condamnations, on l'a vu, n'ont pas conduit Israël à cesser, même momentanément, ses opérations militaires. Des bombardements se sont poursuivis dès le lendemain, dès lundi, sur la ville de Rafah et tous les jours depuis le début de cette semaine. Un de ces bombardements, mardi, aurait tué 21 personnes. C'est en tout cas ce qu'affirme la Défense civile de Gaza, qui est un organisme qui dépend du Hamas.
Et de leur côté, que disent les Israéliens ?
Alors d'abord, ils démentent ce bombardement de mardi qui aurait fait 21 morts. Ils affirment d'autre part qu'en ce qui concerne dimanche, ils ne sont peut-être pas entièrement responsables de l'incendie dans le camp de déplacés. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que les bombes qui ont été lâchées, c'était des bombes de 17 kilos qui ne sont pas assez puissantes, selon le porte-parole de l'armée, pour avoir déclenché un tel incendie. Selon ce porte-parole, les bombes pourraient avoir touché un dépôt de munitions du Hamas et c'est lui qui aurait provoqué l'incendie et ce très lourd bilan de 49 morts et 250 blessés. Les Israéliens ont publié l'enregistrement censé être de deux hommes du Hamas qui parlent entre eux et qui confirment effectivement l'explosion d'un de leurs dépôts de munitions. On ne sait pas ce que vaut exactement cet enregistrement. Mais pour le reste, les Israéliens ne contestent pas donc ces attaques aériennes depuis le début de cette semaine sur la ville de Rafah. Ils insistent sur le fait qu'ils ne visent pas la zone humanitaire protégée, cette zone qui est à la limite de Rafah et où les Israéliens invitent les civils à se réfugier. Elle n'aurait donc pas été touchée. Et puis parallèlement à ces bombardements, des chars israéliens sont entrés au début de la semaine pour la première fois dans le centre de Rafah. Des blindés à plusieurs reprises ont été vus, notamment au principal rond-point du centre-ville. On ne peut pas, à vrai dire, parler d'une grande offensive terrestre, de la grande offensive qui était redoutée depuis très longtemps. Elle n'a sans doute pas commencé, mais ce sont des opérations militaires régulières qui se poursuivent, donc malgré les condamnations.
Nicolas, est-ce que l'on peut dire que ces opérations sont illégales ?
Alors, au regard du droit international, oui, on peut le dire exactement depuis vendredi dernier. Vendredi, la Cour de justice internationale, la CJI, la plus haute juridiction de l'ONU, a ordonné à Israël de cesser ses opérations militaires à Rafah parce qu'elles peuvent provoquer, je cite, la destruction d'un groupe humain, autrement dit des Palestiniens qui y vivent. C'est une enquête de la Cour de justice internationale qui dure depuis des années, qui avait commencé au début sur d'éventuels crimes de guerre de l'armée israélienne en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre, l'enquête a été étendue naturellement à ce qui se passe à Gaza. La Cour, de par ses statuts, est censée réprimer, mais aussi prévenir les crimes les plus graves, et notamment les crimes de génocide. Ce terme de génocide n'est pas employé par la justice internationale, mais de façon préventive, l'ordonnance du tribunal de La Haye exige donc très clairement l'arrêt des combats à Rafah parce que, on le répète, parce qu'il y a un risque de destruction d'un groupe humain. Il faut signaler que le même arrêt de la Cour de La Haye exige aussi du Hamas que tous les otages soient libérés immédiatement. Et donc on voit bien qu'aucune de ces deux injonctions n'ont été suivies d'effet. Mais en tout cas, depuis un petit peu plus d'une semaine, ce qui n'était pas le cas avant. On peut dire que l'opération militaire à Rafah est contraire au droit international. On voit que donc cette intervention est condamnée depuis un petit moment par de nombreuses voix qui s'élèvent et qui disent que ce serait un carnage de lancer une opération de grande ampleur à Rafah. Même Joe Biden en avait fait une ligne rouge. Il avait menacé de suspendre les envois d'armes américaines en cas d'offensive terrestre.
Les États-Unis, vous le dites, veulent empêcher Israël d'envahir complètement cette zone. Ils maintiennent un minimum de pression. Écoutez plutôt le porte-parole du Conseil de sécurité américain, John Kirby.
Ce n'est pas un sujet sur lequel nous avons fermé les yeux et ce n'est pas non plus quelque chose dont nous avons fait abstraction ou omis d'aborder avec nos homologues israéliens. Nous ne pensons toujours pas qu'une opération terrestre majeure à Rafah soit justifiée. Nous ne souhaitons toujours pas voir les Israéliens frapper Rafah avec de grandes unités sur de vastes étendues de territoire et à ce stade, ce n'est toujours pas le cas. Voilà notre ligne. Nous allons bien sûr continuer de surveiller cela de très très près.
Conséquence directe des attaques en cours, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer, Nicolas.
Oui, d'après tous les témoignages, c'est effectivement le sud de Gaza est effectivement devenu un cauchemar. Les familles qui s'étaient réfugiées à Rafah en sont souvent à leur deuxième ou troisième exode. Ce sont des familles qui ont pu quitter la ville de Gaza pour se réfugier à Khan Younes, puis qui ont quitté Khan Younes pour se réfugier à Rafah et qui maintenant sont obligées de quitter Rafah une nouvelle fois. Alors, où est-ce qu'elles vont ? Tout près de là, elles vont dans une vaste zone qui s'étend entre la ville de Rafah et la mer, qui était autrefois une colonie juive qui s'appelait le Gouch Katif et qui est maintenant cette zone que les Israéliens ont désignée comme une zone sûre. Alors, elle est couverte de tentes. C'était avant le début de la guerre une zone où il y avait une zone agricole, où il y avait beaucoup de serres et puis des collines de sable. Désormais, elle est couverte de tentes. Il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes donc, qui s'entassent dans cette zone, sauf qu'elle est absolument dépourvue de tout. Il n'y a pas d'installation sanitaire, naturellement pas d'école, pas d'hôpitaux. Les derniers hôpitaux de la ville de Rafah sont en train de fermer les uns après les autres. Il n'y en a plus qu'un. Les évacuations des blessés les plus graves vers l'Égypte ne se font plus non plus depuis une dizaine de jours. L'ONU est donc en train de dénoncer des conditions de vie absolument insupportables pour tous ces gens. Le manque d'eau, le manque de nourriture, l'amoncellement des déchets. On ne mesure pas ce que ça représente, effectivement, ces problèmes de salubrité. Et puis, l'absence d'accès aux soins. Le Suisse Philippe Lazzarini, qui est le patron de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, a eu une expression cette semaine. Il dit... Rafah est actuellement l'enfer sur Terre.
C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On est sur toutes les plateformes et sur l'appli RMC, évidemment. Nicolas, on te retrouve très vite.
À bientôt.
Retrouvez Nicolas Poincaré tous les matins à 6h50 et 7h50 dans Apolline Matin sur RMC.